Et alors, cette fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu, est très belle. Très, très belle. Elle nous vient de très, très loin, surtout du concile d'Éphèse, qui a eu lieu en 431 quand a été proclamée la Vierge comme Théotokos, c'est en grec, ça veut dire Mère de Dieu. Avec les siècles et les siècles, on a approfondi la réflexion sur la Sainte Vierge et on en est arrivé à parfois des dévotions qui exagèrent, il semble, selon certains théologiens, mais qui sont très belles, n'en reste pas moins qu'elles sont très très belles. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très heureuse année, et surtout une sainte année. Et n'allez pas dire, comme je me fais dire de temps en temps, « Oh, Monsieur Beaugrand-Champagne, je vous souhaite la santé, et sans la santé, tout est perdu. » Mais c'est pas vrai, hein? Combien de fois on voit des malades, et je salue justement les grands malades qui nous écoutent actuellement à Radio Ville-Marie, et qui savent bien au fond d'eux-mêmes que même s'ils sont malades, ils ont peut-être les joies profondes que procure la foi. Une foi vivante, hein? Et une charité vécue, c'est-à-dire un amour intérieur qui leur vient de la présence de Dieu en eux. Oh, je vous rappelle ce que je vous ai déjà raconté quand j'avais interviewé la merveilleuse Annette Desautels qui était paralysée depuis si longtemps et qui disait que son bonheur lui venait de ce qu'elle se savait aimée de Dieu et qu'elle savait que Dieu l'aimait. Et pourtant, elle était une grande malade. Alors, c'est pas la santé qui compte. Je dirais que ça, c'est la sainteté. Disons que c'est la foi, la présence de Dieu, cette conviction profonde. Et c'est ce que je vous souhaite tout au cours de l'année. Et vous aurez le sentiment intérieur qu'il n'y a pas de nuages, comme aujourd'hui sur le ciel de Montréal. Aucun nuage, un beau ciel bleu extraordinaire. Elle est donc reine des anges et des saints, cette Vierge Mère. Elle ouvre tout naturellement, on peut dire, la litanie des saints qui court tout au long de l'année liturgique. Et une semaine après Noël, après la naissance de Jésus, il est normal que l'Église célèbre celle qui l'a mise au monde. Et c'est un symbole que cette solennité se trouve maintenant fixée au seuil de l'année civile. Un symbole très important auquel il faudrait de plus en plus réfléchir puisque c'est tout à fait nouveau. Les esquisses d'ailleurs de tout ce qui entoure la Sainte Vierge, qu'on appelle la mariologie à ce propos, sont connues. C'est connu, comme je vous ai dit, depuis le concile d'Éphèse en 431, là, qui a proclamé la maternité divine de Marie. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'elle est mère de Dieu. On sait bien qu'elle n'est pas la mère de Dieu dans le sens qu'elle serait une déesse. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Hein? Elle est la mère de Jésus qui est Dieu. Moyen de l'incarnation pour nous les hommes et pour notre salut, cette maternité est donc divine car elle se place dans l'orbite, au fond, de la paternité divine. Et c'est une relation unique, transformante avec la Trinité, selon la mariologie d'aujourd'hui. Et on sait que la Sainte Vierge est demeurée vierge. On trouve dans des textes du Concile d'Éphèse une proclamation très importante, une déclaration de Saint Cyril d'Alexandrie. Il dit, si quelqu'un ne confesse pas que l'Emmanuel, c'est-à-dire Jésus, est vraiment Dieu, et que pour cette raison la Sainte Vierge est mère de Dieu, car elle enfantant, selon la chair, le Verbe de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, fait chair, eh bien, il dit qu'il soit anathème. Ce sont de vieilles expressions d'autrefois, qui sont un peu tragiques. Dans la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, il est dit, depuis les temps les plus reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de mère de Dieu. Et les fidèles se réfugient sous sa protection en l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins. Alors ça date déjà de 2000 ans quand on y pense. Vous voyez que cette constitution qui a été proclamée dans les années 60 répète la même chose. Je voudrais terminer par ce texte du pape Jean-Paul II à Belém do Pará le 28 juillet 1990. Notre-Dame, nous adorons le Père pour les prérogatives qui brillent en vous. Mais nous l'adorons aussi parce que vous êtes toujours pour nous la servante du Seigneur, une petite créature. Parce que vous avez été capable de dire « Fiat », vous êtes devenue l'épouse de l'Esprit-Saint et la mère du Fils de Dieu. Mère enveloppée dans le mystère de votre Fils, faites que nous comprenions qu'évangéliser, c'est s'immerger dans les mystères du Christ. C'est très beau. Évangéliser, c'est s'immerger, comme se noyer, disons, dans les mystères du Christ. Et tenter d'en communiquer quelque chose à nos frères. Et c'est ce que nous essayons de faire ici à Radio Ville-Marie. Nous voulons vraiment nous immerger dans le Christ, afin de communiquer à tout le monde, et en compagnie de nos frères juifs, protestants, musulmans, vous faire aimer Dieu, et vous rendre plus heureux au cours de cette année qui commence. Il y a ce beau texte de Saint Cyril d'Alexandrie. Je te salue, Marie, Mère de Dieu. Trésor vénéré de tout l'univers, lumière qui ne s'éteint pas. Vous voyez, ça date du 5e siècle, tout ça. Je te salue, Marie, demeure de celui qu'aucun lieu ne contient. C'est notre cas aussi. Nous sommes la demeure de celui qu'aucun lieu ne contient. C'est pour ça qu'on peut prier en disant, « Oh mon Dieu, je suis en toi, mais tu es en moi. » Et le texte de Cyril d'Alexandrie continue en disant, « Par toi, les bergers ont rendu gloire à Dieu. Par toi est béni dans l'Évangile celui qui vient au nom du Seigneur. Par toi, la Trinité est glorifiée. Par toi, la croix est vénérée dans l'univers entier. Et par toi, exultent les cieux. » Il y a de ce cri de ce vieux père de l'Église quelque chose de beau. Hein? « Par toi, exultent les cieux. » Par toi, l'humanité déchue a été relevée. Et par toi, le monde entier a enfin connu la vérité. Par toi, sur toute la terre se sont fondées des églises. Par toi, le Fils unique de Dieu a fait resplendir sa lumière sur ceux qui étaient dans les ténèbres, assis à l'ombre de la mort. Et par toi, les apôtres ont pu annoncer le salut aux nations. Il termine en disant comment chanter dignement ta louange, ô Mère de Dieu, par qui la terre entière tressaille d'allégresse. Dans un des derniers numéros d'un excellent journal publié ici à Paris et à Montréal, qui s'appelle L'Homme Nouveau, je relève dans le numéro du 17 décembre, il y a quelques semaines à peine, n'est-ce pas, en première page, un très bel article, où il est question de la foi qui est émerveillement. Et si on ne s'émerveille pas devant tout ce qui surgit sous nos yeux et au creux de notre cœur, il nous manque vraiment quelque chose. Car là où Dieu se manifeste, il n'y a pas d'abord le discours, il y a d'abord le jaillissement. Avant de comprendre la merveille, puis la comprendre, est-ce qu'on peut vraiment comprendre les merveilles que Dieu nous fait? Il s'agit de prendre cette merveille. Il s'agit de se laisser prendre par elle. En somme, quand on lit la Bible, on voit bien que lorsque Dieu crée, lorsqu'il délivre, lorsqu'il guérit, lorsqu'il révèle, lorsqu'il éclaire, mais l'homme juste et bon répond par quoi, hein? Par un chant. Oui, c'est pour ça que nous chantons dans nos églises. C'est pour ça qu'il faut chanter même à la maison. Et la Bible raconte et chante. Et c'est ça le langage de la foi. Il n'y a pas d'analyse puis de discussion. C'est un hymne qui doit jaillir de notre cœur. Et avant la théologie, intervient ce qu'on appelle la doxologie, c'est-à-dire dire la gloire de Dieu. Et on retrouve ça dans l'hymne acatiste qui est joué assez souvent ici sur les ondes de Radio Ville-Marie. C'est ce qu'on retrouve aussi dans de nombreux chants religieux, comme celui qu'on vient de vous faire entendre. Et c'est un peu ce qui se vit à Noël pour ceux chez qui reste un peu de foi et qui pensent à autre chose qu'à des arbres de Noël, des cadeaux, des repas. Qu'est-ce que c'est Noël si c'est pas éclater d'émerveillement devant ce Dieu qui se donne à nous, hein? On veut être émerveillé par les chants, par la joie des rencontres qui arrivent, à surmonter toutes sortes de conflits, mais on oublie, puis on oublie, au moment de Noël, n'est-ce pas un moment, les misères du monde, pour louer Dieu, qui s'incarne parmi nous par l'Esprit Saint, en Marie. Pourquoi est-ce souvent si éphémère et passager cette joie? Pourquoi les itinérants, les prisonniers, les abandonnés arrivent-ils parfois à détester Noël? C'est parce que l'on a perdu le sens profond du mystère qui se continue pas tout au long de l'année. Tourner vers les misères écrasantes, misères humaines, nous oublions de nous tourner d'abord vers la splendeur de Dieu, chaque jour au réveil et à chaque instant de notre journée, constamment, au creux même de l'aide qu'on apporte aux gens malheureux autour de nous. Ils étaient pauvres et humbles, dit le texte dans l'Homme Nouveau, ces bergers d'Israël, dominés par les Romains, méprisés par les riches de leur propre société. Et c'est par un chant de louange que le mystère de Dieu leur a été révélé. C'est ça qu'on voit, les bergers sont pauvres, pauvres, il n'y a rien de plus pauvre que des bergers, et Dieu se révèle à eux et ils chantent. C'est leur émerveillement, au cœur même de leur pauvreté, qu'il nous faut redécouvrir aujourd'hui. Après 2000 ans de tradition chrétienne, je lis le texte tel qu'il est ici, c'est superbe. Le Créateur a fait une œuvre nouvelle lorsqu'il se rend visible à nos yeux. Il a pris chair dans le sein d'une vierge en la gardant dans son intégrité pour qu'à la vue de cette merveille, nous chantions. Et quand nous contemplons cet enfantement inhabituel, nous devenons étrangers à notre monde habituel et notre esprit se tourne vers les réalités d'en haut, car le Très-Haut s'est révélé aux hommes dans l'abaissement pour élever ceux qui croient en lui. Comme me disait mon petit-fils dans l'autobus tout à l'heure, Jésus est venu pour nous guérir, hein? Mais c'est bien ça, il nous élève, il nous arrache à nos misères, hein? Et M. Léopold Wallet, qui a écrit ce texte dans L'Homme Nouveau, continue en disant « Si la fête de Noël remplit encore les églises et rassemble encore des familles, elle ne produit pas de fruits permanents dans les âmes. Elle ne réussit pas à garder unies les familles existantes ou à susciter de nouvelles familles stables et fécondes. C'est le drame profond de notre société québécoise. On ne cesse de dire que l'Église au Québec perd les Québécois faute de s'adapter à la modernité. » Il ajoute avec beaucoup d'intelligence, « Il y a erreur fondamentale de perspective. L'Église, qui est le corps mystique du Christ, réalité parfaite et éternelle, ne perd rien. Ce sont les hommes de notre temps qui perdent l'Église. Ce sont les hommes, les femmes de notre temps qui perdent l'Église. Avec elle, ils perdent la joie et la paix, promise à la naissance de Jésus il y a 2000 ans. Je trouve ça extrêmement lucide, ce texte. Il ajoute, « Oui, je sais. On a rejeté une religion de pratique, une morale réglée dans les détails, au gré de plusieurs prêtres ayant une autorité excessive sur une population captive. Oui, on a tout secoué pour retrouver la liberté. Mais quels en sont les fruits? On attaque encore à rebours l'Église pour sa morale sexuelle, mais on se trouve en face d'un libéralisme sexuel qui tue les corps et les âmes, détruit les mariages et stérilise les familles. Est-ce là la modernité? Est-ce là la liberté? On a effacé la notion de péché, mais on a multiplié les actes de péché et nous en récoltons les fruits amers. Peuple du Québec, reviendras-tu de ta colère aveugle qui a gravement déformé la foi de notre passé? Et à côté des lacunes dues à l'époque, il y a des merveilles de générosité et de fécondité qu'il faut redécouvrir. Et il dit non, l'Église ne perd rien, mais en perdant le Christ et l'Église, nous perdons tout. Je le répète parce que c'est tellement intelligent. Non, l'Église ne perd rien, mais en perdant le Christ et l'Église, nous perdons tout. Il faut que les yeux s'ouvrent. Les problèmes de l'Église étaient réels, mais elle seule est porteuse de la bonne nouvelle du Christ. Parce que le cœur de l'homme a un besoin irrésistible de l'infini. C'est donc vrai. L'ennemi a inventé la foi au Christ sans l'Église. Et oui, de plus en plus de gens nous disent ça. Moi, je crois au Christ, mais pas à l'Église. Mais ils se perdent. Elle put inspirer de bons sentiments, ce genre de foi, des bons sentiments passagers, mais elle est rapidement victime des passions personnelles et des manipulations extérieures, et les gens finissent par aboutir dans des sectes terribles comme celle qui fait des ravages depuis un an ici, sans compter toutes les autres. C'est rapidement stérile, ces choses-là. Le Christ est dans l'Église qu'il a fondée lui-même en confiant la primauté à Pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. M. Ouellet continue en disant, on ne veut pas revenir au climat religieux de 1950, d'accord. Personne ne veut y revenir. Mais même minoritaire, un grand nombre de Québécois, héritiers par une grâce gratuite de la foi de leurs parents, ont opéré une conversion profonde, guidée par l'Église elle-même depuis le Concile, et faite d'abord d'une adhésion forte à la personne du Christ. Et c'est ça que l'on trouve de plus en plus chez de nombreux chrétiens, et c'est ce qui m'émerveille, cette adhésion forte à la personne du Christ dont on célèbre aujourd'hui l'octave de la naissance, c'est-à-dire au bout de 8 jours, on célèbre encore, comment? En célébrant sa mère, Mère de Dieu. Monsieur Ouellet écrit un beau paragraphe ici, qui nous intéresse à cette émission, vous intéresse aux saints. Il dit, la sainteté proposée aux laïcs, comme aux religieux, n'est pas le fruit d'un ensemble de pratiques difficiles découlant de la volonté propre et de la peur. Il ne s'agit pas de vouloir être des saints. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu et de vouloir donc devenir des saints. C'est pas ça. Ou d'avoir peur de l'enfer. C'est pas ça. Il dit, elle est d'abord et avant tout une union au Christ, Dieu incarné parmi nous, mort et ressuscité, pour guérir en nous les blessures du péché. Fruit pourri qui détruit notre merveilleuse liberté. Car nous sommes libres, mais le péché enchaîne et détruit la liberté. Et alors Dieu incarné parmi nous, qui est mort et ressuscité pour guérir en nous les blessures du péché que l'on appelle originel, et nous permettre de vivre dans l'amour de Dieu et du prochain. C'est ça que Jésus vient faire. Une morale fondée sur le combat du mal en nous par la force de la volonté, ça conduit ça à quoi? À la frustration, puis au rejet. Mais si on a un comportement moral qui est dicté par l'imitation de ce Jésus qui vient de naître, auquel nous adhérons dans l'amour et le vrai chemin de la liberté et de la joie, c'est ça toute la vie chrétienne que Jésus vient nous enseigner. Ou à notre époque de réalisation de soi, qui est refus de toute dépendance, mais l'exemple de Jésus-Christ, qui obéit au Père, nous montre le vrai chemin de la libération. Et le Christ répare, il répare, oui, notre nature blessée. Il vient nous consoler, nous guérir, nous transformer, pour nous redonner la liberté d'aimer et de servir les autres dans la joie. Le vrai sens de cette fête aujourd'hui, comme Marie, Mère de Dieu, nous sommes aussi porteurs du Christ. Le Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, disait saint Paul. Et c'est ce que disent aussi tous les saints. Et une façon de vivre plus chrétiennement dans nos foyers aujourd'hui, c'est de pratiquer cette tradition magnifique de la bénédiction paternelle. Dans les foyers chrétiens au Québec, notamment, il est de coutume, le matin du jour de l'an, que les enfants reçoivent la bénédiction paternelle. Vous savez que cette tradition remonte à l'époque où nos premiers ancêtres, pour ceux qui sont ici là depuis 3 siècles et demi, sont venus s'établir ici au Canada. Ce sont eux qui l'ont apporté de France. Et il faut rechercher les origines d'ailleurs de cette coutume avant même la venue de Jésus sur la terre, bien oui. Noé, oui. Le patriarche, notre grand-père Noé, nous en donne un premier exemple en bénissant ses fils Sem et Japhet. On voit ça dans la Bible. Jésus lui-même, vous souvenez-vous, en accordant sa bénédiction aux petits-enfants, Il a recommandé aux parents chrétiens de renouveler par la suite ce geste et à leurs enfants de le solliciter. Et dans l'histoire, à toutes les époques, dans tous les pays chrétiens, la bénédiction paternelle était en honneur. Et Saint Louis, imaginez qu'il est mort sous les murs de Tunis, en Afrique du Nord, en Tunisie, oui. Bien, il couvre de ses deux mains la tête de son fils. C'est comme ça souvent que se donne la bénédiction paternelle, hein? En couvrant la tête des deux mains. C'est très beau, ça. Et il lui accorde à son fils Saint Louis, là, toutes ses bénédictions. Et même le chevalier Bayard, la veille de faire ses premières armes, hein, il demande à genoux la bénédiction de son père afin d'être plus fort. Hein. Et on retrouve ça dans les monastères. Je me souviens à l'abbaye d'Ancalcate dans le sud de la France de voir le père abbé qui était tout jeune et qui bénissait son père qui était le dernier des frères converts, qui se mettait à genoux devant lui à la sortie pour se faire bénir de façon plus immédiate par son fils qui était devenu son père abbé. Lui, le vieux marquis de Fleuris, qui était depuis le dernier des frères converts, se mettait à genoux. C'était très émouvant. Je voudrais justement vous parler de Saint Odilon, dont c'est la fête aujourd'hui. C'était un des immenses et plus importants abbés de Cluny. Et le gouvernement de l'abbé Saint Odilon à la tête de l'immense abbaye de Cluny. Vous savez que l'église de l'abbaye de Cluny, à l'époque, au début de ce millénaire, était plus grande que l'église Saint-Pierre de Rome. Il y avait là plus de 1000 moines. Et ils avaient des centaines et des centaines de monastères à travers toute l'Europe. Or, Saint Odilon a été abbé de ce monastère durant plus d'un demi-siècle, oui, pendant plus de 50 ans. C'est absolument fantastique. Hein. Il a été abbé de 994 à 1049. Ça fait 55 ans, ça. C'est incroyable. Hein. On sait qu'il est décédé dans la nuit du 31 décembre 1048 au 1er janvier 1049. Âgé de 87 ans, il a été enseveli au prieuré de Souvigny, là même où il est mort d'ailleurs, où son prédécesseur Saint-Mailleul reposait. Il serait né en 961 ou 962, croit-on. Et sous son abbatiat, c'est le deuxième en longueur, l'abbaye de Cluny a connu une renommée internationale, mais c'est une vie fascinante que celle de Saint-Odilon. Son écrit, ses écrits, puis son administration, puis son sens religieux le montrent bien, que sa formation, dès le départ, était excellente. Il est entré à l'abbaye de Cluny, qui est dans le centre de la France. Il n'en reste plus qu'un petit morceau de cette immense abbaye qui a été détruite vers 1828 par celui qui l'avait acheté au moment de la Révolution française, à la fin du 18e siècle. Il avait acheté l'abbaye, on a chassé les moines, il a défait l'abbaye morceau par morceau, puis a vendu toutes les pierres. Imaginez, c'est épouvantable, un des plus grands monuments d'art sacré au monde. Donc, il est entré, lui, notre Odilon, à Cluny, au début de la trentaine. Et à peine trois ans après son admission, l'abbé Saint-Mailleul l'a choisi comme coadjuteur. Alors, il avait donc remarqué chez lui de grandes qualités pour l'agréger si vite au gouvernement de la communauté de Cluny. Et dès le mois de mai 993, il rédige des documents sous son nom et aussi au nom du père abbé Mailleul. Depuis Saint-Odon, un autre saint abbé de Cluny, il y avait une coutume qui prévalait à Cluny. L'abbé, sentant venir sa fin, bien, il choisissait son successeur. Contrairement à ce que recommande Saint Benoît dans la règle au chapitre 64, hein, se posait des élections. Mais ce choix, néanmoins, a été ratifié là, par la communauté, quelques mois plus tard. Alors, nouvellement arrivé dans la communauté, imaginez, quelques années à peine, il s'appliquait bien à son sujet ce que dit Saint Benoît du choix de l'abbé dans la règle, justement au chapitre 64, il dit « C'est pour le mérite de sa vie et la sagesse de sa doctrine que sera choisi celui qui doit être nommé, même s'il est le dernier par son rang dans la communauté. » Alors, le 11 mai 994, eh bien, Saint-Mailleul rend son âme à Dieu au prieuré de Souvigny, en route pour l'abbaye de Saint-Denis. Et le dimanche de la Pentecôte, le 20 mai suivant, ben déjà, Odilon recevait la bénédiction abbatiale. Ça a pris 9 jours, quoi. Il commença alors une vie très active. Il entreprit un premier voyage à Rome. Imaginez les voyages. C'est incroyable quand on pense à tous ces voyages que faisaient ces gens. Nous, on craint de marcher 3 coins de rue. Eux traversent à pied la France, l'Italie, les montagnes, tout ça. Donc, il se rend pour un premier voyage à Rome pour défendre les droits et privilèges de l'immense abbaye de Cluny et aussi pour porter un don substantiel au pape comme signe de sa protection sur l'abbaye bourguignonne, car c'est en Bourgogne qu'était cette immense abbaye de Cluny. Et là, dans un autre voyage dans la ville de Rome, en 1014, donc une vingtaine d'années plus tard, il assiste au couronnement de l'empereur Henri II de Bavière, dit le Saint, n'est-ce pas? Et à cette occasion, le pape a remis à l'empereur un globe d'or, surmonté d'une croix, symbole de la puissance impériale. Alors, saint Odilon, qui était si puissant, a reçu ce globe en cadeau, avec soin de le garder dans le trésor immense de l'abbaye de Cluny. On n'a aucune idée. Vous savez, le musée de Cluny à Paris, je vous l'ai déjà dit, hein, le musée de Cluny, c'est un immense musée, mais c'était la résidence de l'abbé de Cluny à Paris, quand il arrivait à Paris. C'est invraisemblable. Donc, en 1022, il a fait une autre visite à Rome. Et là, notre bienheureux abbé Odilon a poussé son voyage jusqu'au Mont Cassin. Il n'a pas voulu imposer quand même la réforme qui s'était faite à Cluny. Il n'a pas voulu s'imposer lui-même, d'ailleurs. Il a refusé de présider aux grandes cérémonies liturgiques. Même si des monastères de plus en plus nombreux se mettaient sous l'observance de Cluny à travers toute l'Europe, jusqu'en Hongrie, il n'a pas voulu montrer qu'il était le gardien de l'esprit de Saint-Benoît, à cause de la réputation de Cluny. Non, il était plutôt simple. Et l'année suivante, il a perdu 2 grands défenseurs de Cluny, qui sont morts en l'an 1024. C'est le pape Benoît VIII et l'empereur Henri, dont il a été question tout à l'heure. Alors là, en 1026, il a fait un nouveau voyage à Rome. 4 ans plus tard, quoi. Pour le sacre de l'empereur Conrad. Il était obligé d'assister à toutes ces choses-là parce qu'il était un des hommes religieux les plus importants de toute l'Église. Alors, on le retrouve à Reims aussi pour le sacre du roi de France. L'abbé de Cluny jouissait donc, vous imaginez, d'un crédit immense auprès des plus grands de ce monde. Et on a même écrit de lui qu'il était un véritable homme d'État. Là, vers 1033, il est arrivé toutes sortes de calamités qui ont frappé la Bourgogne. Des intempéries continuelles qui ont empêché pendant 3 ans des récoltes de mûrir, disent les vieux textes de cette époque, provoquant la disette, avec pour conséquence la cherté inouïe des vivres, puis une mortalité effroyable. C'est Raoul Glabre, un chroniqueur du temps. C'est très intéressant de lire les chroniqueurs de cette époque, mettons du 12e siècle, et tout ça. On a des textes comme ça, c'est publié. Fascinant de lire ça. Et devant toutes sortes de malheurs et de décès d'amis de l'abbaye, Odilon en a perdu le sommeil. Puis dans la nuit du 10 mai 1033, le souvenir de son prédécesseur, Mailleul, dont on allait fêter l'anniversaire du décès le lendemain, l'a invité à retrouver la paix en écrivant une vie de Saint Mailleul, justement. Je vous parlerai de Saint Mailleul le 11 mai prochain. Déjà, avant l'an 1000, à Cluny, on célébrait, c'est intéressant ça, les messes et les offices pour les défunts. Et après des événements aussi tristes que ceux que je viens de vous raconter brièvement, là, on peut lire dans la chronique des abbés de Cluny ce petit détail tout bref. Commémoration de tous les défunts. Commémoration de tous les défunts. C'est là que ça commence. Et on admet que la commémoration du 2 novembre, qui se répandit dans toute l'Église, qu'on célèbre aujourd'hui, a vu le jour au temps de saint Odilon. D'ailleurs, il y a un texte qui date de cette époque. Le bienheureux père Odilon, du consentement et sur la demande de tous les frères de Cluny, a décrété ce qui suit. De même que toutes les églises répandues sur la surface de la terre célèbrent le premier jour de novembre la fête de tous les saints, la Toussaint, de même on fera chez nous, de façon solennelle, une commémoration de tous les fidèles défunts. depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, dit-il. Ce jour-là, après le chapitre, le doyen et le céleri, c'est-à-dire l'économe, feront une aumône de pain et de vin à tous les pauvres qui se présenteront. Comme c'est l'usage pour le jeudi saint, celui qui est chargé des aumônes recevra tout ce qui restera ce jour-là du repas des frères, sauf le pain et le vin, qu'il ne recevra qu'après le repas du soir, etc. Et c'est ainsi qu'on peut lire dans ces vieux textes que ce décret doit rester toujours en vigueur pour vénérer les morts. Alors, la charité de Dillon ne se limitait pas à la prière pour soulager les défunts, elle s'est portée aussi sur les miséreux. Et cet homme si puissant, qui était un véritable moine, qui savait vivre avec Jésus-Christ, n'a pas hésité à faire vendre, imaginez, les vases et les joyaux de son église, y compris le globe d'or, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il avait reçu de l'empereur Henri. « Car, dit-il, je juge indigne de refuser ces objets aux pauvres du Christ, alors que son sang a coulé pour eux. » Et on a même sacrifié, c'est saint Odilon qui l'a fait faire, une partie du parement en or de l'autel majeur de l'Église. Il disait, « L'or de l'Église n'est pas fait pour être entassé, mais pour être distribué. » Alors, à ceux qui l'accusaient d'être trop bon, Odilon répondait, « Si je dois être damné, j'aime mieux que ce soit pour excès de douceur, plutôt que pour dureté ou pour avarice. » Alors, à rencontre spirituelle, nous revenons à notre saint Odilon, qui, après 56 ans d'abbatiat, et plus qu'octogénaire et malgré la maladie, il est parti en 1048 pour une tournée à travers les monastères dépendants de Cluny, puis il est allé à Souvigny, ce monastère dont je vous ai parlé, où Saint-Maïeul a été enseveli. C'était sa première étape. Il reste là à Souvigny. Encore l'église abbatiale qui a été construite de 1080 à 1114. C'est là qu'on inhumait les membres de la maison des Bourbons avant son accession au trône. Elle est toujours là. Mais alors, à Souvigny, de sa première étape, il a commencé à prêcher aux frères pour les préparer à la fête de Noël toute proche. Mais une maladie soudaine le terrassa. Il s'éteignit paisiblement au matin du 1er janvier 1049 à l'âge de 88 ans. Et un de ses biographes a décrit ainsi Odilon. C'est surprenant pour un immense abbé comme ça. Imaginez, taille médiocre, très maigre, le teint pâle, le front chauve. Pas de prestance, quoi. Et tout au long de sa vie, il s'est porté en avant, imperturbable. Il poursuivait son devoir, et pour garder et affermir les droits de l'abbaye Cluny et de sous l'ordre de Cluny, il a su développer un grand sens pratique et beaucoup de souplesse. Il a été un grand diplomate. Il a changé, il a temporisé. Et c'est pourquoi tout le monde lui marquait son amitié. Les papes, les évêques, les empereurs, les rois, les seigneurs. Il avait une grande humilité, malgré tout ça. Mais quelle était la pensée là, de cet homme d'action et d'organisation qu'était saint Odilon? On peut le découvrir à travers de nombreuses lettres. Il y en a évidemment qui sont très brèves, mais on constate son sens pratique. Ses sermons tournent presque tous autour du mystère de l'incarnation. Oui, de l'incarnation, et c'est le temps de Noël, c'est pour ça que je suis content de vous en parler. Alors, célébrant les fêtes liturgiques, saint Odilon expliquait par la parole celui que célébrait son âme. Il décrit dans ses homélies là, tous les fondements historiques de ce mystère célébré, puis il montre les répercussions sur la vie spirituelle. Il a une prédication intelligente qui approfondit les fêtes, les grandes fêtes, et on découvre chez lui une tendre dévotion à Notre-Dame. Et selon un de ses biographes, Saint-Pierre Damien, il serait à l'origine de l'usage monastique de l'inclination au mot du Te Deum, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge. Je me souviens qu'on faisait ça, on chantait le Te Deum à Saint-Méla-du-Lac encore dans les années 40, mais je pense qu'on chante plus ça aujourd'hui. C'est si beau pourtant un Te Deum. Et je me souviens qu'on inclinait la tête et je savais pas que ça venait de cette époque. Alors, il pratiquait même, saint Odilon, une forme d'esclavage spirituel à l'égard de la Sainte Vierge. Il appliquait en effet à cette espèce de dévotion un vieil usage féodal. Alors il s'est constitué par serment serf, S-E-R-F, là, les serfs, serf de Notre-Dame, qu'il considérait, disait-il, comme sa suzeraine. Il lui disait, « Prenez-moi à votre service, je me déclare votre serf pour l'éternité. » C'est sympathique, hein? Et un décret de Saint-Odilon sur la hiérarchie des fêtes mérite d'être cité. Il met l'Assomption de Marie, le 15 août, au rang des grandes solennités de l'année. C'était un début. Car il faut vous dire que c'est petit à petit dans l'histoire de l'Église que Marie a pris toute cette place qu'elle a aujourd'hui. Dans l'évolution de l'abbaye de Cluny, Saint-Odilon se situe au centre des deux siècles de la réforme de cette abbaye. Il récolte le fruit de tous ses prédécesseurs, des grands saints. En somme, il a grandi l'importance de Cluny. Pendant plus de 50 ans d'abbatiat, Saint-Hugues, son successeur, va conduire Cluny à son sommet. Et je vous parlerai de Saint-Hugues le 29 avril. C'est un saint immense encore que Saint-Hugues pour ce qui est de l'histoire de la vie monastique. En cette fête de Marie, Mère de Dieu, je ne puis résister à vous lire à nouveau ces belles paroles de Jean-Paul Sartre, car je connais peu d'évocations plus fortes du mystère de l'incarnation que les paroles de Jean-Paul Sartre, cet athée le plus connu de notre siècle. C'était le père Boisselot, un dominicain, qui avait obtenu de Jean-Paul Sartre, qui était emprisonné dans un camp de concentration avec lui au cours de l'hiver terrible de 1940. Le père Boisselot lui avait demandé de décrire quelque chose à l'occasion de Noël. Et voici ce texte. Comme c'est aujourd'hui Noël, vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge, et voici Joseph, et voici l'enfant Jésus. Mais écoutez, vous n'avez qu'à fermer les yeux, je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. N'oubliez pas, c'est un athée qui parle, Jean-Paul Sartre. C'est très beau. Je me demande des fois si c'est pas le plus beau texte que j'ai lu sur Noël. La Vierge est pâle, et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux qui n'apparut qu'une fois sur une figure humaine. Car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois, et elle lui donnera le sein, et son lait deviendra le sang de Dieu. Et par moments, la tentation est si forte qu'elle oublie qu'il est Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit... « Mon petit. » Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite et elle pense « Oh, Dieu est là. » Toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments devant ce fragment de leur chair qu'est leur enfant. Et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent des pensées étrangères. Mais aucun enfant n'a été plus rapidement arraché à sa mère car il est Dieu. Et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Il y a d'autres moments rapides et glissants où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle et qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense, « Oh, ce Dieu est mon enfant, cette chair est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux et cette forme de sa bouche est la forme de la mienne. Oh, il me ressemble, il est Dieu et il me ressemble. » Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie si j'étais peintre. Et j'essaierais de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu, dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et deux yeux brillants. Car je ne sais que dire de Joseph. Et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore, il est heureux d'adorer. Et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera pour apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même. C'est un peu comme les pères, hein? Mais c'est très beau cette description que Jean-Paul Sartre fait de cette scène, de la nativité, de la crèche. Et c'est là-dessus que je vous laisse, en vous recommandant de ne pas oublier que vous êtes aussi porteur du Christ, pour le donner aux autres, pour le donner au monde. Nous sommes tous porteurs de Jésus-Christ. Et comme Marie, nous devons dire oui à cette présence en nous pour la faire grandir. Et plus nous disons oui, plus le Christ grandit en nous. Plus nous disons oui aux conseils que Dieu nous donne, plus nous devenons d'autres Christ. Et c'est là qu'est le bonheur. Et pour susciter ce bonheur dans nos familles, un bon moyen, c'est la bénédiction paternelle que je vous recommande d'accorder à vos enfants et à tous les vôtres. Je le dis aussi pour les femmes qui peuvent donner la bénédiction maternelle, disons.